RMC. Là est l'amour et vous, Brigitte Lahaie.
Eh bien, en ce vendredi 13, nous allons oser tous les excès, sauf bien sûr si vous êtes particulièrement superstitieux. En fait, je dis ça parce que mon invité pour cette libre antenne, eh bien, c'est Jean-Claude Matizia qui est avec nous et il a une vision beaucoup plus large de nos excès érotiques que la plupart des thérapeutes. Parce que, après tout, ce qui est considéré pour des excès par certains sont juste des pratiques ordinaires pour d'autres. Et s'il y a bien un sujet sur lequel il est difficile de dire ce qui est bien et ce qui est mal, c'est le sexe. Sauf évidemment si on se place sur le plan de la moralité. Donc ça, je crois que vous l'avez compris depuis longtemps, si vous êtes à l'écoute, c'est pas vraiment en ces termes que nous essayons de répondre à vos questionnements. Donc aujourd'hui, soyez encore plus libres pour oser venir poser toutes vos questions ou vous témoigner. Et puis bien sûr, vous avez la possibilité également de réagir à tout ce que nous avons abordé comme sujet tout au long de cette semaine. Mais un seul numéro, le 3216. Après 15h20, c'est Côme qui sera avec nous, ce jeune chanteur que vous avez peut-être découvert dans The Voice. Eh bien, il viendra se confier et on verra s'il est aussi romantique que son physique le laisse à penser. Si vous avez envie de lui poser une question, vous pouvez bien sûr composer le 3216. En programme également, notre fil d'Ariane nous emmènera dans un village interdit aux hommes. Et Mélusine a testé pour nous le cahier de vacances Clara Morgan. Bonjour Jean-Claude Matizia.
Bonjour Brigitte.
Voilà, bah oui, je le dis ça parce que vous êtes l'auteur de Fantasmes et réalités sur les sexes addicts aux éditions Jean-Claude Lattès. Et vous précisez bien que finalement, ce qu'on appelle sexe addict, c'est souvent uniquement quelqu'un qui aime beaucoup le sexe ou qui est hyper sexuel et qu'il faut peut-être pas tout le temps juger et mettre des barrières ou des étiquettes.
Oui, tout à fait. Vraiment la différence entre une hypersexualité et une vraie addiction sexuelle, c'est la souffrance. À partir du moment où nos conduites sexuelles sont assumées, libres, consenties, partagées avec le partenaire, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. À partir du moment où on commence à souffrir de ces conduites, là, effectivement, on passe dans un autre registre.
On commence avec Nicolas qui, a priori, aujourd'hui, a peut-être des petits soucis dans son couple. Bon, bonjour Nicolas.
Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité.
Bonjour Nicolas.
Écoutez, moi je vous appelle, donc j'ai 31 ans, ma compagne a à peu près mon âge, elle a 29 ans. On s'est rencontrés en fait très jeune, quand on était adolescents tous les deux. Donc on a connu quasiment, je dirais que cette histoire dans notre vie. Aujourd'hui, on a deux enfants, deux petites filles, donc qui ont 3 ans et 4 ans et demi, pardon, excusez-moi, donc deux enfants assez rapprochés. Et en fait, si vous voulez, bon, il y a un mois et demi, il y a un gros clash, donc elle a fait comprendre qu'en gros, elle avait plus de sentiments pour moi, qu'elle n'avait plus forcément envie de moi non plus. Alors pour resituer un petit peu les choses en étant en bref, si vous voulez, ça fait depuis qu'on a eu notre deuxième enfant, c'est vrai que ça a mis un peu de distance dans notre couple, notamment sur l'intimité. Et puis il y a aussi un gros problème, c'est que, je sais que voilà, si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est en grande partie de ma faute, puisque j'ai un caractère assez fort et je lui ai pas mal manqué de respect dans mes paroles. En fait, elle m'avait déjà posé plusieurs petits ultimatums, on a déjà eu des disputes à ce sujet-là. Sauf que, moi, je prenais conscience pendant quelques jours, je faisais attention, j'essayais de me comporter mieux, mais le naturel revenait. Et là, maintenant, depuis ce clash, elle me dit qu'elle ne m'aime plus, et maintenant, c'est moi qui me réveille, quoi, un petit peu tard, vous allez dire, c'est sûr. Mais je me rends compte que je l'aime comme un fou, et que j'ai pas du tout envie de la perdre, et j'ai pas du tout envie de briser ma famille, en fait.
Oui, mais c'est pas parce que vous l'aimez comme un fou que forcément, vous avez le caractère qui lui convient. Vous voyez, il faut peut-être aussi comprendre. Vous avez eu toute une phase de vie qui a visiblement été bonne, et qui vous a correspondu au point où vous avez eu envie d'avoir deux enfants ensemble. Aujourd'hui, vous êtes parent. Elle a certainement, comme beaucoup de femmes, après avoir été mère, pris de l'assurance. Elle est devenue femme au sens avec un grand F. Et aujourd'hui, elle n'a plus envie d'être avec un homme, peut-être un peu dominateur, un peu. Et donc, il faudrait maintenant voir si, en effet, il n'y a rien qui est sauvable ou pas, mais à mon avis, d'après ce que vous dites, je crains malheureusement que la rupture soit assez inévitable.
Alors, la rupture, c'est effectivement quelque chose d'assez complexe. Autant l'évolution d'une relation de couple sur le temps évolue entre différents axes. C'était Sternberg comme ça qui avait défini l'amour vrai dans un triangle avec la passion, un des points hauts, la passion avec l'élan amoureux, de l'autre côté, un autre point du triangle, la tendresse, et puis autrement, au dernier pôle, il y avait la responsabilité. Nos relations de couple évoluent toujours à l'intérieur de ce triangle, avec des évolutions, je dirais, chronologiques, où on peut, à un moment ou un autre de l'évolution du couple, privilégier un des axes. Donc, ne plus aimer, ça peut avoir beaucoup de sens. Je ne sais pas si vous a déjà parlé de séparation, pas du tout, vous restez ensemble.
Écoutez, pour l'instant, si vous voulez, on est propriétaire d'un logement, donc qu'on avait mis en vente déjà avant ça, hein, ça fait quelques mois. C'est pas la raison de la mise en vente de notre logement, mais on est lié un petit peu pour être ensemble encore quelques temps, de toute façon, à vivre ensemble, quoi qu'il en soit. Quoi. Et en fait, si vous voulez, l'objet de mon appel, excusez-moi de vous couper, l'objet de mon appel, c'était simplement, même si tout d'apparence a l'air un peu perdu, moi, depuis un mois et demi, j'ai ouvert grand les yeux, certes très tardivement, et c'est ce qu'elle me reproche. Ma question maintenant, c'est et comment mettre à profit ce temps qui nous reste, comment agir, quelle posture adopter pour essayer, même si ça paraît mal engagé, pour essayer de la récupérer, de lui montrer que je suis capable de changer, parce que j'ai vraiment très envie de changer, j'ai pas du tout envie de perdre.
Mais changer, Nicolas, commencer dès maintenant à engager peut-être une thérapie et elle va constater que vous changez. Si vous pensez que peut-être qu'en changeant vous allez la garder, pourquoi pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que souvent, quand les femmes en arrivent à poser ce discours-là, c'est que ça remonte déjà loin et que c'est assez compliqué. En même temps, vous êtes quand même parents de deux jeunes enfants, donc ça vaut peut-être le coup quand même de prendre son temps avant de vraiment décider de se séparer. Vous pouvez peut-être lui demander d'attendre, je sais pas moi, un an. Si elle a personne d'autre, elle peut-être accepter ce laps de temps et mais ne perdez pas de temps dès ce soir, allez consulter, allez faire quelque chose pour que ce soit, parce que vous savez, Nicolas, et ça j'en suis, alors ça je l'affirme de avec force, on ne change pas si on ne fait rien, même si on a décidé de changer, on ne change pas.
Oui, alors il y a aussi la possibilité effectivement de voir quelqu'un pour en parler, mais surtout peut-être de proposer aussi à votre compagne la possibilité d'en parler tous les deux. Alors, il ne s'agit pas là forcément d'une thérapie sur le long terme, mais au moins de faire un état des lieux dans une forme d'entretien de couple, par exemple, pour voir vraiment s'il y a quelque chose à sauver ou pas.
Le problème, c'est que moi, j'ai été voir quelqu'un déjà une première fois et que je dois revoir, donc je me suis engagé par rapport à ça. Elle n'est pas ouverte à ça. Pour elle, elle a plus de sentiments, elle a pas envie d'aller voir quelqu'un, d'aller faire une thérapie, si vous voulez.
Mais ça, c'est comme ça que je l'entends bien, Nicolas. C'est pour ça qu'il faut qu'elle observe que vous êtes en train de changer sans que vous lui disiez. Moi, je pense pas qu'il faille que vous lui dites mais tu vas voir, je vais changer. Dites-lui juste, écoute, prenons le temps, il n'y a pas d'urgence.
C'est ce que je lui dis, mais on en revient toujours au même point où elle me dit qu'elle pense pas que j'arriverai à changer. Elle est persuadée que j'arriverai pas à changer puisqu'elle m'a déjà essayé de faire ouvrir les yeux plusieurs fois. Sauf que moi, je n'ai pas ouvert les yeux à temps, j'ai ouvert les yeux trop tard.
Mais vous avez réagi comme réagissent tout être humain, Nicolas. Tant qu'on n'est pas obligé de changer, on change pas. Aucun humain va changer pour le plaisir de changer. On change parce qu'il nous arrive des tuiles dans la vie, parce qu'on vit des expériences qui nous font changer.
Voilà, on change en fonction des événements, on change aussi en fonction de l'autre. Alors parfois c'est trop tard, parfois ça ne l'est pas. Mais vous pouvez pas faire non plus avec sans le désir de l'autre. Il y a le vôtre, effectivement, qui est d'avoir réalisé ce que vous alliez perdre. Et puis il y a le sien. Il y a aucun forcing possible. C'est pour ça le fait de vouloir changer. Parfois, on peut tomber aussi dans la caricature, c'est-à-dire ne pas être vraiment soi-même, c'est-à-dire montrer une autre image, pour forcer un petit peu le destin. Moi, je pense que le mieux dans cette situation, c'est de rester vous-même, parce qu'autrement, vous allez vous-même vous y perdre. Effectivement, ce que disait Brigitte, c'est-à-dire de proposer à un gentleman agrément, c'est-à-dire de pendant un certain temps, on peut vivre comme ça. Il y a les enfants. enfants, il y a une réalité matérielle. Maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est que il y a des choses chez vous qui lui ont plu à votre épouse au début, parce que vous étiez naturel, vous étiez vous, etc. Les choses ont fait que ça change, qu'elle change et que vous aussi. Et la meilleure façon, c'est effectivement en essayant. On ne change pas, on peut gommer aussi un peu ses défauts, mais on peut pas changer sa personnalité. Mais il faut que vous restiez aussi quand même au maximum naturel. Ne pas changer et de montrer une image qui n'est pas la vôtre.
Et surtout, je crois, Nicolas, et ça je l'entends souvent, vous avez envie de devenir totalement aimable pour la garder. Mais ça marchera pas. Ce qu'il faut que vous fassiez aussi, c'est que vous ayez des centres d'intérêt, qu'elle ait l'impression que quand même vous vivez et que vous vous amusez bien sans elle.
Oui.
Parce que sinon, si vous devenez, vous savez, la chanson de Jacques Brel, son chien, elle va vous abandonner à SPA très très rapidement.
Ce sera encore pire.
Oui, on évolue au cours d'une relation. Comme disait Brigitte, souvent c'est les défauts certains de nos défauts qui plaisent à l'autre. Alors vraisemblablement, pendant un temps, tout au début de la relation, peut-être qu'elle a cherché cette forme de protection, mais que maintenant ça devient plus pesant parce qu'elle a évolué. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai échange aussi autour de, même peut-être aussi de ce qui a plu dans la relation au début et ce qu'elle est devenue aujourd'hui.
Merci Nicolas et bon courage. On va parler de l'addiction avec Jessica qui est avec nous. Bonjour Jessica.
Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Claude.
Bonjour Jessica.
Vous voulez aborder le sujet de l'addiction, Jessica?
Alors oui, en fait, j'aurais aimé parler de l'expression « avoir l'autre dans la peau », parce que quand on aime quelqu'un, généralement, par amour, on est prêt à faire beaucoup, beaucoup de choses. Et souvent, par amour, on a tendance à s'effacer. Lorsqu'on est tellement, tellement amoureux, on se perd soi-même. Et dans des relations qui sont vraiment très fusionnelles, lorsque l'un des deux quitte l'autre, eh bien, l'autre se retrouve totalement perdu. Pour parler de mon expérience personnelle, j'ai été pendant 9 ans avec un homme qui m'a totalement modelée à son image. Et lorsque nous nous sommes séparés, eh bien, je me suis sentie vraiment totalement vide, alors que c'était ma volonté propre de le quitter. Mais je ne me sentais plus être entièrement moi, je me sentais complètement perdue.
Oui, c'est pour ça que parfois on parle de l'amour ou plutôt de la passion même, je dirais, comme une drogue, oui.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on voit en consultation pas mal de ce qu'on appelle des dépendances affectives. C'est-à-dire des gens qui sont effacés au profit de l'autre. Et souvent dans une forme de codépendance qu'on appelle, c'est-à-dire d'être accro à un conjoint, lui-même accro, et on s'investit un petit peu d'une mission de sauver l'autre. Là, il s'agit plus, en fait, d'un gommage de sa propre personnalité pour se mettre dans le champ du désir de l'autre. C'est-à-dire que, voilà, il est tel que je suis, tel qu'il souhaite que je sois. Et effectivement, ça tient pas forcément très très longtemps, parce qu'on peut pas détruire sa personnalité uniquement pour satisfaire l'autre, mais il faut quand même s'interroger sur les raisons pour lesquelles on s'est effacé.
Mais alors, en ce qui concerne le mimétisme amoureux dans ces cas-là, lorsqu'on a l'autre qui a tendance à nous copier dans des expressions qu'on peut avoir, etc., etc., est-ce que c'est perdre son image au regard de l'autre, ou est-ce que c'est une question d'identité qu'on copie sur l'autre
Mais Jessica, on est sans cesse en train d'intégrer des pas forcément de son partenaire d'ailleurs, ça peut être de ses amis, ça peut être dans son travail, ça peut être des gens qu'on apprécie parce que ce sont des stars. Enfin, on est sans cesse en train de se nourrir de ce qui nous entoure, donc il ne faut pas non plus s'en inquiéter.
Oui, ça ne devient pas forcément une source de souffrance. Le tout, c'est de savoir si vous en souffrez ou pas. Voilà, à partir du moment où vous mettez dans une situation par rapport
à
l'autre.
En même temps, quand on est quitté ou quand on quitte, d'ailleurs, qu'il y ait souffrance, c'est normal aussi, parce qu'il y a une sorte de vide qui se crée et qui nous déstabilise.
Oui, d'autant plus quand l'autre est devenu le centre de sa vie. C'est aussi ça, c'est pour ça qu'on parlait un petit peu d'addiction. Une relation amoureuse, c'est très important bien sûr, mais voilà, il y a d'autres champs aussi d'expression de sa vie, et même si la relation amoureuse est centrale, il faut aussi qu'elle soit contrebalancée par d'autres centres de vie et d'intérêt.
C'est mieux. Même si, bien sûr, on ne parle pas d'avoir des doubles vies. Hein.
Là, il s'agit, c'est plus de social, de voilà, culturel, etc.
De professionnel,
voilà,
de passion,
tout à fait.
Qu'on ne se méprenne pas sur nos propos.
Jamais.
Jamais. Merci, Jessica. Nous continuons avec Sandrine. Bonjour, Sandrine.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, moi, j'ai un souci avec mon ado de 15 ans.
Oui.
Il a demandé, il y a un mois et demi, à voir un psychologue. Donc, il a raconté ses petites histoires. Cette personne a voulu me rencontrer et rencontrer le papa. Avec le papa, la personne était seule. Le papa a raconté qu'il y a 20 ans, sa fille a été abusée sexuellement. Ça s'est très très bien passé avec la psychologue qui a rassuré en fait mon mari, et à savoir si mon enfant de 15 ans était au courant. Mon mari a dit absolument pas, il est hors de question qu'il le soit, c'est pas son histoire, c'est l'histoire de sa sœur, à savoir qu'ils sont
demi-sœurs, oui.
Voilà. Il n'y a aucune raison qu'il le soit. Peu de temps après, on y est retourné tous les deux, et moi je voulais signaler qu'à l'âge de 6 ans, nous sommes partis en Espagne, le pays d'origine du papa. Et à partir de cette année-là, mon fils a commencé à grossir. Et ça ne s'est pas arrêté. Et dans une précédente émission, j'ai entendu que le fait de grossir anormalement, il y avait forcément un problème à la base.
Donc forcément non, mais ça peut indiquer un problème.
Voilà. Donc j'ai signalé à cette psychologue, mon fils était présent, comme quoi je suis persuadée que ça a commencé cette année-là. Elle me demande ce qui s'est passé durant cet été, aucune idée, rien de particulier. Et elle me demande si la sœur a eu des problèmes de poids. Donc je lui dis oui, à une certaine période, elle était limite anorexique, mais elle me demande pourquoi. Et là, je fais des grands signes en disant, je ne peux pas en parler, vous êtes au courant, mon mari vous a expliqué, je ne peux pas parler de ça devant lui. Et elle me pousse, elle me pousse, elle me pousse à dire la chose, en disant qu'il avait besoin de le savoir, que c'était son histoire, que c'était sa famille. Donc j'ai fini par cracher le morceau. Mon fils poussait en disant « maintenant t'en as trop dit, vas-y ». Et j'ai craché le morceau en disant « voilà ce qui s'est passé il y a 20 ans ». Il l'a forcément très mal pris, très choqué sur le moment. Et elle a rien trouvé de mieux que de pousser le bouchon plus loin en disant « bon bah voilà, cet été-là, il s'est forcément passé quelque chose ». À savoir qu'un enfant abusé sexuellement abusera forcément. Donc a priori, elle t'a abusé cet été-là.
Bah, bien sûr, bah, voyons.
Ça fait une semaine, c'est le drame à la maison, c'est l'enfer. Lui ne sait plus où il habite. Apprendre que sa sœur a été abusée, c'est une catastrophe pour lui. Et puis il commence à se dire, mais si ça se trouve moi aussi, enfin, naturellement il n'a pas de souvenir. Enfin, c'est très 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 compliqué et je le
sais. Ben, bien sûr, Sandrine. Et encore une fois, un thérapeute n'a pas à déclarer ce qui s'est passé. Il peut éventuellement aider le patient à découvrir ce qui s'est passé, mais jamais un thérapeute ne doit avoir comme ça des certitudes sur ce qui s'est passé. Et cette habitude que certains thérapeutes ont à tout de suite mettre les attouchements cause de non.
Il n'y a pas de relation de cause à effet comme ça direct.
C'est insupportable.
Oui, non, mais voilà, parce qu'à ce moment-là. Voilà, on serait tous des tueurs en série potentiels, on serait tous des violeurs potentiels ou des victimes potentielles. C'est effectivement insupportable de créer des relations de cause à effet comme ça. Cependant, vous savez, il y a le poids de... Maintenant, c'est devenu un petit peu un lieu commun, le poids des secrets de famille, un petit peu, où même si ça n'est pas verbalisé, les enfants peuvent ressentir une espèce de poids comme ça. Que ça a été dit maintenant que ça brutalement en thérapie me paraît pas une bonne idée. D'ailleurs, sûrement hors propos, je rejoins Brigitte là. Cependant, ce qui est le plus important reste à faire. C'est-à-dire, est-ce que vous avez pu justement reprendre un petit peu les choses au sein de la famille après cette intervention auprès du psychologue ou pas ?
Alors, dans la famille, mon mari, mon fils et moi, oui, absolument. On en parle tout le temps. Le thérapeute, mon fils ne veut plus y mettre les pieds.
Ben ça, je crois qu'il a raison. Il est plein de bon sens, votre fils.
Voilà.
Moi.
Et là, son angoisse terrible, c'est de revoir sa sœur. En disant, mais je ne sais pas du tout quelle attitude je vais avoir face à elle. Déjà.
Mais Sandrine, dans ce cas-là, il faut, vous savez, il faut dire à votre fils, il a 15 ans, donc il faut avoir un discours assez basique, hein. On peut pas commencer à parler de grande psychanalyse avec un garçon de 15 ans. Il faut juste un petit peu de bon sens. Vous allez lui dire, écoute, tu sais, il y a des mauvais garagistes, et il y a des mauvais psys. Je suis désolée, c'est de notre faute. On t'a emmené voir une mauvaise psychologue et elle a raconté des trucs qui sont ridicules. Tu n'as pas de souvenirs, donc ça ne s'est pas passé. Même si peut-être il s'est passé quelque chose, mais pour l'instant, il faut le rassurer sur ce qu'il ressent et ce qu'il a l'impression d'avoir vécu. Mm-hmm. Pour remettre un petit peu d'équilibre dans voilà. Sa tête. Moi, je pense que c'est la meilleure stratégie là.
Il faut aussi le rassurer, parce que le fait de pas savoir, il faut pas non plus que ça vire à la culpabilité pour lui.
Mais oui. Parce que je ne sais pas comment s'adresser à sa sœur. Enfin, c'est du grand n'importe quoi.
D'un autre côté, il pourrait aussi se sentir quelque part responsable de pas s'en être aperçu, enfin de pas avoir vu que sa demi-sœur était mal, etc. Donc faut resituer un petit peu les choses et peut-être aussi lui expliquer pourquoi ça lui a pas été dit de façon très simple.
On a tout dit. On lui a dit que c'était pas son histoire, que c'était pas à nous de le dire. Enfin, tout a été dit. Je pense qu'il a compris. Il est encore sous le choc, comme il dit. Vous, ça fait 20 ans que vous avez mis pour pouvoir le digérer. Moi, j'en suis à une semaine. Mais comme il dit, elle m'a mis un doute.
Quelque part, il a pris sa souffrance d'une manière inconsciente, mais qu'il s'est rien passé. Vous comprenez?
D'accord.
Il faut partir dans le symbolique là pour rassurer toute la famille. Et partir dans le symbolique, ça veut dire que elle lui a transmis
elle lui a transmis un poids, une charge.
Voilà.
Ça paraît assez évident.
D'accord. Donc vous expliquez les choses comme ça, et surtout, et ça je le dis, il faut vraiment qu'il entende, aucune preuve de quelqu'un qui aurait été abusé va prouver qu'il va abuser. C'est archi faux. Ce n'est pas vrai.
Ça, il faut vous sortir ça de l'esprit.
C'est absurde.
Il n'y a pas de lien. C'est vrai que ça peut exister, mais que le lien soit direct, qu'on reproduise sa souffrance en faisant souffrir soi-même d'autres personnes, sûrement pas.
Alors ça, c'est quand même important à savoir. Il y a énormément de personnes qui ont été abusées et qui n'abuseront jamais. Et je crois que ça, c'est quand même vraiment aussi une chose qu'il faut entendre, parce que sinon, c'est terrible. En plus,
il y aurait une répétition
pour cette fille
comme ça.
Aussi,
oui, tout à fait. Ça mettrait un petit peu la suspicion aussi sur elle. Voilà, elle a déjà assez à faire avec sa souffrance et voilà de pouvoir reproduire. C'est insensé d'imaginer qu'il y ait cette répétition systématique.
Voilà Sandrine, bon courage. Et puis on passe à l'onde positive. Bah tiens, justement, ça tombe bien. Le silence est d'or, voilà. Bon, en même temps, c'est pas tout à fait ce que je vais vous dire, puisque je voudrais dire que comme on ne sait pas regarder, on a tendance à parler beaucoup trop. Et c'est vrai que j'ai remarqué que plus on parle, moins on sait regarder. Donc de temps en temps, il faut se rappeler que le silence est d'or.
C'est mieux.
Allez, on se retrouve dans quelques instants. On va parler fantasmes avec Sébastien, qui sera avec nous dans quelques instants.
RMC, 14h-16h, l'amour et vous. Détendu, timide, libéré, extraverti, décomplexé ou exubérant, tous chez Brigitte sur RMC.
Et nous pouvons aborder tous les sujets qui vous passionnent, qui vous intéressent ou sur lesquels vous avez envie de réagir. Nous sommes avec Jean-Claude Matisiak aujourd'hui. Vous êtes psychiatre, directeur médical du centre hospitalier du littoral à Villeneuve-Saint-Georges. Et on va parler fantasmes avec Sébastien qui est avec nous. Bonjour Sébastien.
Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Je voulais parler fantasme en fait, parce que moi j'ai effectivement j'aurais pas mal de fantasmes, mais par contre ma partenaire en face ne serait pas partante en fait pour ce type de les fantasmes en général. Je trouve que et donc je voulais avoir un peu en fait.
Vous êtes depuis combien de temps avec cette femme?
Ça fait 18 ans maintenant.
D'accord. Bon, et vous l'avez peut-être pas choisi par hasard, c'est peut-être votre garde-fou.
Oh oui, sûrement. Non, mais j'ai, c'est pas, par contre, ouais, c'est pas le fantasme de tromper, mais c'est plutôt ouais, de faire, je sais pas, de essayer d'éventuellement de pigmenter un peu le couple.
Et ces fantasmes, c'est quoi exactement? De club libertin
Ouais, ça serait, oui, ça serait le truc qui oui, ça serait de ce style-là, effectivement. Mmh. Sans passer forcément à l'acte, histoire de. Plutôt ouais de peut-être voir dans un premier temps et puis éventuellement et plus c'est infinité, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est l'ordre du fantasme en fait, donc ça me fait plutôt plutôt j'irais sur ma libido en fait, hein, c'est mm-hmm. Et donc je sais même pas si je passerai à l'acte en fait, c'est donc du coup c'est dehors du vrai
fantasme. Est-ce que vous avez essayé par exemple avec votre femme déjà de d'aller sur internet, de regarder sur certains sites, échanger justement et voir si ça peut déjà suffire à nourrir un peu votre fantasme, parce que ça elle pourrait peut-être accepter.
Ouais, bah, en fait j'ai déjà tendu la perche, mais en fait de son côté elle est pas ouverte à cette donc c'est un
mais même fantasme. Même de manière virtuelle sur internet.
Ah, faudrait que je retente. Alors, la dernière fois que j'avais essayé, c'est oui.
Parce que vous voyez, pour l'instant, elle n'a pas envie, et l'idée de rentrer dans un club, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour elle. Donc il faut pas passer en force. C'est jamais possible de passer en force dans l'ordre de la fantasmatique.
Ah oui, ce genre de pratique doit être partagé, consenti et réciproque. C'est impossible. C'est impossible de partir dans ce genre de pratique si c'est pas voulu des deux côtés. Par contre, c'est là toute la nuance entre le fantasme et le passage à l'acte. On peut avoir des fantasmes effectivement. Pourquoi vous, ça c'est un de vos fantasmes de voir votre femme prise par quelqu'un d'autre?
Non, pas forcément.
C'est plutôt éventuellement de voir d'autres femmes, de fantasmer sur d'autres corps, hein, je crois.
Ouais, ça serait. Ouais, c'est ça. Je pense que ce serait plus de ce style-là, effectivement.
C'est pour ça que, de manière virtuelle, vous pouvez peut-être ensemble vous amuser à regarder, à parler et voir comment ça fait évoluer sa fantasmatique à elle.
Ouais, parce qu'en fait c'est ça, j'ai l'impression de qu'en fait elle a pas vraiment de fantasmatique. C'est un peu curieux. Pourtant on fait l'amour après 18 ans, on fait l'amour régulièrement, toutes les semaines, ça se passe même très bien, je veux dire au niveau la jouissance et tout ça, quoi. Enfin,
mais parce que comme beaucoup de femmes, elle est bien avec vous et elle a pas l'idée de penser à autre chose, donc c'est plutôt bien. Mais
oui.
mais c'est peut-être pas impossible qu'elle change d'avis ou en tout cas que ça l'amuse de voir d'autres personnes. Encore une fois, je le dis bien de manière virtuelle, parce que là on n'est pas dans quel. J'en parlais cette semaine d'ailleurs. Hein. Il faut bien comprendre que rentrer dans un club libertin, même si on sait qu'on ne va rien y faire, c'est quelque part être dans le réel. Et ça peut être très déstabilisant pour certaines personnes.
Quand vous dites elle n'a pas de fantasme, moi je mettrais un bémol. Peut-être qu'elle ne vous en parle pas, peut-être qu'elle ne vous le dit pas. Voilà. Après, il y a toute la nuance. C'est-à-dire que j'ai le sentiment quand même que vous faites une jonction trop rapide entre les fantasmes et la variété des pratiques, ce qui est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire, on a l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais vous allez me l'infirmer ou me le confirmer, que ce que vous souhaiteriez, c'est d'avoir des pratiques plus variées. Après les fantasmes, on sait tous qu'ils sont pas tous bons à être mis en acte. Par contre, on peut en partager certains ou s'en rapprocher, Maintenant, c'est peut-être. En tout cas, un fantasme que vous avez, vous, et qui ne l'excite pas du tout. Cependant, quand vous dites qu'elle n'a pas de fantasme, moi je dirais plutôt que, pour l'instant, elle ne met pas à jour, elle vous en parle pas. Ouais. Mais je pense qu'elle doit en avoir, ça me paraît évident.
Oui, mais elle n'est peut-être pas consciente, donc elle n'en parle pas.
Ouais, c'est peut-être, effectivement, c'est peut-être ça. Bon, on parle quand même pas mal de sexualité, mais c'est vrai que... Elle me dit en fait que elle n'a pas trop de libido, mais ça n'a jamais été.
Sébastien,
été, en fait,
soyez heureux, parce que ça veut dire qu'elle est bien avec vous et qu'elle n'a pas besoin d'imaginer autre chose. C'est pas mal non plus.
Ah oui, non, mais en tout cas, je suis... Enfin, oui, en fait, c'était pour parler un peu de ça, pour essayer d'avoir un peu le, d'avoir un retour de votre part. Mais c'est vrai qu'autrement, on est très bien ensemble. Et puis là, enfin... Mais c'est éventuellement sur une possibilité de... En fait, effectivement, de déclencher... Alors, c'est peut-être moi, c'était mon fantasme, mais on a essayé... Bah, je lui ai demandé déjà si elle en avait un. Et... Bon, pas trop, en fait, pour de ce qu'on a discuté. Hein. Mais oui. Ou alors, inconscient, ou alors c'est pas conscient et c'est inconscient. Et puis,
en tout cas, moi, ce qui me paraît extrêmement positif, c'est que ça soit avec elle que vous vouliez le partager. Mais après, la nuance, ça sera de savoir si vous, ça crée un manque. Si ça vous pose un problème de pas pouvoir accéder à ce fantasme et si ça pose un problème dans votre relation de couple, c'est vraiment la limite du fantasme partagé, c'est-à-dire que si y en a un que ça excite pas du tout.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut le faire. Il faut faire évoluer votre sexualité, soit en regardant, je vous dis, des clubs échangés en virtuel, ou pourquoi pas vous regardez un film pornographique et puis vous fantasmez ensemble sur tel comédien, telle comédienne. Et si, vous voyez, de manière à éventuellement au moins pouvoir communiquer sur ce fantasme de manière, encore une fois, symbolique, sans vouloir passer à l'acte. Vous comprenez ?
Oui, je comprends.
C'est comme ça que vous pourrez communiquer, alors que si vous communiquez de manière directe, à froid, il ne se passera rien, elle va au contraire de plus en plus se fermer.
Oui.
D'accord.
Okay,
merci. Et puis aussi varier vos fantasmes.
L'autre fil d'Ariane, vous allez nous parler d'un village où les hommes sont exclus. Donc Jean-Claude Matissac, vous restez en dehors du village.
Je sors deux minutes.
Oui. Voilà. Un village interdit aux hommes, exclusivement réservé aux femmes, c'est au Kenya, au nord du Kenya, dans la région de Samburu, le village Umoja, qui est habité par 47 femmes aujourd'hui. Et ce village a été fondé en 1990 par 15 femmes qui ont décidé de se protéger en se retrouvant dans un seul et même village où il n'y aurait jamais, plus jamais d'hommes dans ce village, pour enfin échapper aussi au mariage forcé, à toutes sortes de mutilations génitales dont elles ont pu être victimes ou risqueraient de l'être. Et donc depuis 1990, les femmes y trouvent refuge dans ce village Umoja. Tout un documentaire avait été consacré au village en question. Et curieusement, il y a des quatre coins du monde des femmes qui ont pris connaissance de l'existence de ce village et qui arrivent pour pouvoir s'ajouter à cette communauté féminine.
À mon avis, on va vite s'y ennuyer, ou alors ça va vite devenir encore pire.
Alors, depuis 1990, ça ne cesse de s'accroître, ce village purement féminin.
Vous disiez 47 personnes, c'est pas énorme.
C'est pas énorme. Elles étaient 15 au tout début, elles sont 47 aujourd'hui.
C'est pas
énorme, je suis d'accord.
En 26 ans, on peut pas dire que ça ait quand même été...
C'est sûr, vous avez raison. Mais il est certain que ça existe toujours, ce village, et que juste depuis 90, pas un seul homme n'a pénétré dans ce village-là.
Pénétrer, c'est le terme qui convient.
Vous savez quoi? Je suis allée, évidemment, vous me connaissez, chercher un village qui ne serait peuplé que d'hommes. Bah, ça n'existe pas. Donc, la conclusion qu'on pourrait en tirer, enfin, du moins, je ne l'ai pas trouvé, s'il existe.
Alors, c'est quoi votre fable, votre morale de la fable, Ariane ?
La morale de l'histoire, c'est que si les femmes pourraient peut-être réussir à survivre sans une présence masculine, pour les hommes, ça ne marche pas de la même manière, puisque apparemment, un village purement peuplé d'hommes n'existerait pas. Et qu'ils ont besoin des femmes.
Avant, ça s'appelait l'armée.
Les monastères.
Les monastères, bien sûr, les moines, il y a que des hommes.
C'est vrai, comme des cloîtres où il n'y a que des bonnes sœurs aussi et qui ne réunissent que des femmes. Mais des villages où des personnes n'ont pas des vocations particulières religieuses, uniquement peuplées d'hommes, pour l'instant, je n'en ai pas trouvé.
Oui. À la fois, ce que disait Brigitte, c'est très judicieux, c'est que au bout de tant d'années, il n'y en a que 47 qui n'ont pas eu besoin. Mais on peut aussi comprendre la genèse de ce genre de communauté. C'est quand même la souffrance initiale, quoi. Je veux dire, c'est quand même des femmes qui ont souffert et qui se sont réunies. Est-ce qu'on peut imaginer se passer comme ça? Vous disiez c'est les hommes qui ont plus de mal à se passer des femmes. Oui, toutes les communautés fermées comme ça ont aussi entre guillemets leurs vices et leurs dérives.
Mais en tout cas, moi, ce que j'aime pas finalement dans cette histoire, c'est que bon, bien sûr, c'est pas drôle de se faire violer, c'est pas drôle de se faire exciser, c'est pas drôle de. Mais quand on a subi un traumatisme, il vaut mieux arriver à le dépasser que justement s'enfermer s'isoler dans une situation plus, hein. qui fait qu'on ne risque plus de le.
Tout à fait, le repli sur soi n'aide pas à la métabolisation de la difficulté. Voilà. Après, ça dépend aussi, je dirais, du contexte culturel dans lequel ça fait. Là, c'est des pays où c'est extrêmement compliqué. C'est
pas la même chose qu'en France. Soit aussi que. Enfin, aller vivre au Kenya en ce moment, c'est peut-être pas forcément non plus la destination qui est la plus attirante. Non plus. Merci Ariane, on se retrouve dans un instant, on va revenir sur les réseaux sociaux avec Maxane qui sera avec nous. Et un petit tour du côté de rmc.fr avec ce mail de Paul. Cela fait 5 ans que je suis séparée de mon ancienne petite amie. Je n'arrive toujours pas à passer le cap. Je suis toujours profondément amoureux. J'aimerais avoir votre avis, vos conseils pour arriver à dépasser tout ça et à sortir de ce long tunnel. Merci pour votre aide. Alors Paul, toujours amoureux ou dépressif ?
En tout cas dépendant, ça c'est évident.
Ah oui, très juste. Oui.
En tout cas très très dépendant, ça semble être une, en tout cas dans ce qui est verbalisé, une vraie dépendance affective. Vraisemblablement la crainte de passer aussi à une autre relation. La relation était peut-être parfaite, mais en tout cas là, manifestement le fait de pas pouvoir décrocher, c'est pour ça que j'en parlais le terme de dépendance, signe quand même aussi vraisemblablement la crainte de passer à autre chose.
Mmh. Alors, on ne sait pas, c'est curieux d'ailleurs. On ne sait pas s'il a été quitté ou s'il a. Enfin, parce qu'il dit je me suis séparée. Et c'est là où il y a une ambiguïté qui semble intéressante à analyser aussi.
Voilà, il y a des gens qui, sur un coup de tête, vont quitter quelqu'un et ne vont jamais s'en remettre. Curieusement, justement, quand l'autre, lui, a réussi à passer à autre chose. Et souvent, c'est encore plus douloureux. C'est-à-dire que quand, en fait, on a plaqué la personne et qu'on s'aperçoit au bout de 2, 3, 4 ans qu'on est encore amoureux, c'est encore plus difficile et plus culpabilisant.
On ne sait pas non plus s'il a déjà eu quand même des relations sexuelles. Ce qu'on pourrait encore au moins lui conseiller, c'est au moins d'essayer d'avoir des relations sexuelles, même si c'est même s'il n'est pas amoureux, même si, mais juste pour se remettre le pied à l'étrier, comme on dit.
Oui, et puis ne plus faire de cette relation le centre de sa vie, une obsession, quoi. Je veux dire, c'est effectivement essayer d'avoir d'autres relations, mais aussi développer tout le reste de sa vie sociale, affective, culturelle, et recentrer la relation à sa vraie place. C'est-à-dire qu'elle doit être intégrée à d'autres, et pas centrale.
Donc il faut, Paul, que vous repreniez le goût de vivre, dans tous les sens du terme, de manière à sortir de cette dépression amoureuse.
MC. Là est l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Bonjour Jean-Paul.
Bonjour à vos invités et puis aux auditeurs.
Vous êtes addict au travail ?
Oui, en fait, je suis devenu addict au travail tout simplement parce que j'y rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de belles personnes aussi. Puis c'est devenu une drogue en fait. Voilà, le métier de commercial fait qu'on rencontre d'innombrables personnes au quotidien et je m'aperçois aujourd'hui avec un peu de recul que c'est vraiment devenu une drogue, je suis addict, tout simplement.
Mais Jean-Claude Matisiak le dit encore tout à l'heure, hein, si vous n'en souffrez pas, c'est pas grave, c'est pas...
Alors, je n'en souffre pas, mais il s'avère que bon nombre de mes proches me disent que je dépense une énergie folle, et ils font peut-être plus de soucis pour moi que moi je m'en fais tout seul. Voilà, donc ça m'alerte un peu, en fait, c'était un peu l'objet de mon appel, en s'apercevant qu'on devient addict au travers du regard des autres. Nous, on n'a pas forcément l'impression de l'être, et puis quand on décortique tout ça, on s'aperçoit qu'on en a tous les symptômes.
Voilà. Oui, alors, l'avis de l'entourage est pas forcément occulté, c'est important quand même d'avoir des retours de son entourage qui voit votre évolution, qui voit un petit peu votre investissement, ou là, en l'occurrence, votre surinvestissement. C'est vrai qu'il y a des métiers, des boulots, ou c'est du 24-24, c'est-à-dire quand on est commercial, quand on travaille dans l'immobilier, quand on on vit avec ça, c'est au quotidien, se créer des réseaux, de boulot. Cependant, il faut que ça soit intégré, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que ça soit intégré aussi à une vie affective, à une vie relationnelle, etc. Si ça n'est que ça, et que vous n'avez rien d'autre, pas de relation amoureuse, pas d'amis, pas de vie, j'irais, sportive, culturelle, là, ça peut commencer à poser un problème, parce que pour l'instant, effectivement, ça peut être satisfaisant, mais au bout d'un moment, de quelques années, vous vous apercevez que votre vie, en dehors du boulot, elle est vide.
Donc, c'est pas le cas, hein. Précise, c'est vraiment pas le cas. J'ai tout ce qu'il faut, sauf que cette énergie 24-24, comme vous dites, aujourd'hui, elle se traduit par 3 heures de sommeil par nuit. Je repars, j'ai l'impression d'être une pile. Et puis voilà. Mais à côté de ça, j'ai exactement tout ce dont vous parliez et qui me rassure. Moi, enfin, j'ai l'impression que tout va bien, mais c'est l'énergie ou le peu de repos que je m'octroie qui commence à inquiéter mes proches.
Mais
c'est là le jugement d'addiction.
Patrick Lemoine le dit bien. Est-ce que quand, dans la journée, vous avez des moments où vous avez un petit coup de fatigue ou pas?
Ça peut arriver, mais en fait, très honnêtement, je suis dans un domaine hyperactif et les moments de solitude où je peux réfléchir à ma fatigue sont très peu nombreux, en fait.
Non, voilà. Mais je vous parle pas de réfléchir à votre fatigue. Je vous demande si de temps en temps dans la journée, vous êtes obligé, vous êtes somnolent, vous sentez que vous êtes fatigué.
Non, vraiment pas.
Est-ce que
pas,
vous avez
non,
peut-être non. besoin que de dormir 3 heures par nuit? Donc à partir de ce moment-là, quelle importance respecter votre biorythme.
C'est ce que je dis à tout le monde, mais j'ai pas l'impression que ça rassure pour autant. Mais non, je suis pas pris de somnolence ou je ne
donc,
ce genre de choses.
Donc, vous voyez, je pense encore une fois que il faut faire attention à la norme, qui n'est pas forcément ce qui nous convient. Si vous êtes quelqu'un qui a pas besoin de dormir beaucoup, il y a pas de problème. Vous avez votre compagne, elle ne souffre pas de votre hyperactivité professionnelle?
Non, elle n'en souffre pas, mais je pense qu'il y a de plus en plus d'inquiétudes. Il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour les enfants, il y a un temps pour tout, mais je pense qu'elle s'aperçoit que je monte crescendo dans mon activité, en fait.
Voilà. Alors ce qui est quand même important à relever, c'est l'évolution des choses. C'est-à-dire que si effectivement, progressivement, les choses deviennent envahissantes au détriment du reste, là, effectivement, vous pouvez commencer à vous poser des questions. C'est-à-dire, là, je ne parle pas d'addiction, au travail, dans votre cas, etc., j'en sais rien, mais je dis simplement qu'effectivement, une addiction évolue passe par différents stades. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des excès pendant un temps, et puis après, ça se développe un petit peu. Souvent, c'est là que l'entourage s'en aperçoit. Et puis après, on détruit progressivement sa vie. Et donc c'est juste. Je dis pas que c'est votre cas, mais voilà, c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. C'est-à-dire l'évolution, je dirais excentrique, un petit peu dans le sens du côté chronophage des choses, au détriment d'une vie personnelle. Donc si vous arrivez à trouver le juste équilibre entre tout ça, il y a rien à dire. Si certaines personnes autour de vous commencent à en souffrir ou vous-même commencez à perdre certaines choses de votre vie relationnelle affective, là, il faut aussi quand même être prudent.
Mais Jean-Paul, qu'est-ce qui fait que vous avez de plus en plus envie de vous investir dans votre travail? Vous avez l'impression que c'est ça qui vous fait vous réaliser? Qu'est-ce que vous diriez?
Je travaille dans un domaine assez épanouissant, c'est du développement technologique sur différents domaines, notamment un peu sur la médecine et sur des technologies de haute précision. Donc forcément, c'est tout le temps en évolution, on subit les révolutions informatiques comme les révolutions industrielles. Donc c'est sans cesse en mouvement et on a l'impression de le vivre au quotidien.
Est-ce que d'une manière comme ça, encore une fois très symbolique, vous avez l'impression que grâce à ça, vous allez découvrir le secret de l'immortalité?
Alors, pas de l'immortalité, mais de la satisfaction de rendre un service à des patients qui sont en attente de quelque chose.
Ouais.
Et quand vous les regardez, très honnêtement, l'étincelle qu'il y a dans leurs yeux vous donne envie de remettre encore
d'accord.
plus d'énergie.
Donc, il y a quelque chose quand même qui donne du sens, et finalement, c'est peut-être pas très inquiétant. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je conclurais.
Vous avez raison, c'est exactement ça. Il ne s'agit pas de courir après quelque chose de matériel, c'est vraiment une satisfaction que je tire de tout ça.
Finalement, c'est très religieux, votre mission. C'est une mission.
On peut dire ça comme
non,
ça.
Non, mais je crois que c'est ça. Expliquez ça à vos amis pour qu'ils
d'accord.
comprennent mieux.
Bon, merci en tout cas.
Merci à vous, Jean-Paul.
Très bonne fin de journée.
On continue bien sûr tout de suite après les infos avec vos réactions au 32-16. À tout de suite.
RMC, 14h-16h, la L'Amour et vous.